Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Alors pour te situer rapidement, tu es auteur et je te connais puisque tu es artiste résidente à Peuple et Culture Corrèze, donc à Tulle.
J'étais.
Ah tu étais, donc tu l'es plus là.
Non, je suis plus.
Donc la résidence a pris fin.
Bah oui, mais après 2 ans et demi, c'est normal. C'était déjà très long pour une résidence.
Mais donc tu restes quand même dans les parages de Peuple et Culture.
Bah oui, parce que ce qu'ils font m'intéresse, donc je continue à faire des ateliers d'écriture, et puis il se trouve que j'habite à moitié à Tulle.
D'accord, je vais revenir là-dessus à la fin de l'interview, parce que je suis plutôt venu te voir, puisque tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Pourquoi l'horizon ne suit pas la barre tordue du balcon », qui est paru aux éditions Le Tripode, donc un livre qui est sorti assez récemment, il est sorti le 13 octobre 2022, ça fait un mois en fait. Ce qui m'a marqué en parcourant les premières pages de cet ouvrage, c'est un peu le style à mi-chemin entre la poésie et le roman. Et donc on suit un personnage au cours de ces pages, mais donc moi c'est un peu ce que je rattacherais au roman, mais pour moi la forme tient plus de la poésie en fait. Et pour commencer, j'aurais aimé savoir, bah toi, comment tu définirais ta pratique littéraire en tant qu'auteur et comment tu définirais ce que tu écris, en fait. Moi, j'ai décrit ça peut-être maladroitement comme un mélange entre roman et poésie, mais j'imagine que toi, tu as un autre regard à apporter là-dessus.
Non, je crois que tu l'as bien défini. Même pour moi, c'est assez compliqué. Disons que je m'en fiche un peu de l'histoire. Ce qui m'intéresse plus, c'est comment c'est écrit, la forme que ça a. Alors bien sûr, l'histoire rentre en compte, mais c'est plutôt le style, la forme qui m'intéresse. Et ça, c'est peut-être plus lié à la poésie qu'au roman, justement.
Alors, l'histoire, c'est Marie qui habite un bidonville en bord de mer. Pour moi, il y a un côté qui relève presque de la fable, quasiment, puisque son habitat, c'est un bord de mer, mais c'est un bord de mer abstrait. On ne sait pas où il est, on ne sait pas à quelle époque ça se passe. Et Marie, pour moi, elle incarne un peu ce qu'il y a un peu de détestable chez nous, puisqu'elle est procédurière, elle dénonce, elle est superficielle.
Elle est pénible. Elle est pénible, en un mot. Alors, oui, c'est un peu un archétype, mais au départ, c'était ma vraie voisine. Enfin, inspirée de, disons, et inspirée du quartier où j'habite, à Marseille. Et après, extrapolée, forcément, et en rajoutant des tas de choses, c'est devenu un personnage, c'est devenu moi, toi, c'est devenu tout le monde.
Et du coup, d'où c'est venu cette idée d'écrire sur elle, sur ta voisine? D'où est parti le projet, en fait?
Au départ, c'est un conflit de voisinage. On sent ça un peu dans le livre. Et puis, de cette cristallisation de départ, ça a beaucoup, beaucoup changé, déliré. Il y a été des tas de rajouts, puisque ça a duré... Enfin, depuis l'histoire du début, ça a mis, j'en sais rien, plus d'une quinzaine d'années. L'écriture a évolué jusqu'au livre publié. Donc il s'est rajouté des tas de choses.
Et donc c'est marrant en fait que tu dises que ça vienne d'un conflit de voisinage, que ça parte du réel, parce que ce personnage, pour moi, il avait quelque chose de complètement, une sorte de caractéristique type, une sorte de profil type, donc je le disais, de quelqu'un qui est un peu procédurier, qui dénonce, qui est un peu fasciné un peu par la consommation, il y a un passage dans le livre où tu parles de meubles Ikea, si je dis pas de bêtises, où il y a son horizon à elle, justement, ça a l'air d'être un peu ça, c'est un peu l'air d'avoir une vie parfaite, un peu comme tout le monde, un peu conforme. Et en même temps, je trouve que t'es pas si cruel que ça avec ce personnage. Et que.
Ouais, c'était le but aussi de pouvoir être méchante, mais de pouvoir aussi être tendre. Enfin, tous les aspects de la vie. Enfin, personne n'est jamais ni blanc ni noir. Enfin, ni vraiment. Enfin, moi, quand bien même on a un voisin qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par exemple, il a toujours une vie et des choses formidables. Ils recèlent toujours des choses formidables, même si c'est caché pour nous. Donc ça, je voulais en rendre compte, qu'on est toujours à la fois, qu'on peut être à la fois détestable et quelqu'un de sensible à la poésie, sensible à d'autres choses.
Alors je me suis un peu renseigné sur le livre. J'ai cru comprendre que c'est un travail de long cours qui a pris des formes variées, notamment celle de la performance et donc du spectacle vivant. Et j'aurais aimé que tu nous parles de tout ça, de ton processus de création et de la manière dont tu envisages les interactions entre les différentes formes d'art et les différents médias.
Alors au départ c'est parti de faire une lecture avec une amie à l'IMEC et trouver une forme visuelle pour accompagner la lecture. Il se trouve que cette amie travaillait beaucoup avec des rétroprojecteurs, faisait des images avec des rétroprojecteurs, et pour construire ces images au rétroproj, elle utilisait entre autres des emballages plastiques qui, par transparence, construisent des choses assez belles en même temps avec des objets de rien. Donc c'est parti de là. Après, ça a évolué, on a travaillé à 3, puis après à 4 avec un musicien. Donc au fur et à mesure, ça s'est élaboré avec les objets dont on disposait, les scènes dont on disposait. Et moi, ça m'a obligée aussi à écrire d'autres scènes, peut-être plus visuelles. Et c'est ça aussi qui a fait évoluer le texte.
Alors, est-ce que ça veut dire que le livre que tu as sorti, Pourquoi l'horizon ne suit pas la barre tordue du balcon, est-ce que c'est un texte issu d'une pièce, comme un peu on sortirait le texte d'une pièce de théâtre, et qui quelque part n'est pas une forme littéraire aboutie en soi, enfin, en tout cas c'est quasiment un support de travail. Est-ce que toi tu l'envisages comme ça, ou est-ce que c'est devenu autre chose au fur et à mesure de l'écriture, au fur et à mesure des années, et en fait c'est passé d'un support pour un spectacle vivant à un objet littéraire autonome, on va dire?
Enfin, tant qu'on faisait le spectacle, j'envisageais pas de publier le texte. Mais le texte était beaucoup plus important que ce qu'on avait sélectionné pour le spectacle, qui durait une heure à peu près. Mais ce qui était important quand même dans le spectacle, c'était le texte. Enfin, il y avait du texte tout le temps. Il y avait donc Arthur qui était musicien. Faisait du bruit, enfin bruitait le truc, à la fin c'est lui qui disait le texte, et nous on était 3 manipulateurs et on intervenait aussi, on avait un petit dialogue, mais en tout cas ça a toujours été le texte comme guide. Les images étaient en plus, même si ça marchait vraiment ensemble. Enfin, pour moi, puisque moi j'étais l'écrivain dans l'affaire, pour eux, je pense que c'est les images qui les guidaient.
Si on parle de tes autres projets d'écriture, moi je ne les connais pas bien, pour être franc. Est-ce que c'est toujours dans cette même démarche, ou est-ce que là, justement, c'était une démarche un peu particulière liée à ce processus de création? Est-ce que tu écris, par exemple, des romans, on va dire, plus classique en termes de forme, ou des recueils de poésie, plus classique?
Non, pas du tout. En fait, j'ai une formation plastique, j'ai fait les beaux-arts. Donc, ça a toujours une forme donnée, entre autres une forme plastique, a toujours guidé mon écriture. Donc, j'ai fait plein de choses, par exemple, avec des tampons. Et quand t'écris avec des tampons, ça prend beaucoup de temps. Et donc, plus il y a de mots, plus il y a de boulot. Et ça m'a obligée à resserrer mon propos. Et je pense que ça a pas mal joué sur le style, pour essayer d'avoir une grande concision. Ouais, j'aime pas les phrases très longues. Je préfère avoir plein de phrases courtes et qui rythment les choses. Donc ça, je pense que ça vient de là. Et voilà, je sais plus quoi te dire.
Est-ce que ça te dirait de lire un extrait? Ah, je te prends un peu au dépourvu, je t'en avais pas parlé avant.
Peut-être je peux, mais... Donc, il y a deux... Le livre est composé en deux parties. Donc, il y a la première partie qui est plutôt en vers à libre, enfin, des vers très courts qui rythment la chose. Et la seconde partie, où c'est plus une sorte de délire. Là, pour le coup, c'est un texte où tout le texte est à la ligne, comme ça, avec des longs paragraphes, et qui est presque plus une sorte de monologue.
D'accord.
Donc, ben je ne sais pas quel bout tu veux que je te lise.
Alors moi, pour être franc, comme j'ai pas eu le temps de, je vais être très honnête, comme j'ai pas eu le temps de lire le livre en entier, j'ai plutôt lu la première partie, la partie plutôt.
Je te lis debout, d'accord ?
D'accord, très bien.
Un orage éclate dans la nuit. Joseph dort. Marie est réveillée par de longs éclairs qui font une lumière de néon. Puis la pluie tambourine et c'est le déluge. Marie sort précipitamment de son lit pour aller sur la terrasse, éclairée comme en plein jour, déboucher la gouttière qui lui jaillit dans le cou, encore tiède de sommeil. Elle rentre trempée comme après un bain, enfile un peignoir qui l'éponge, puis s'assoit pour regarder ce spectacle orchestré par un éclairagiste complètement survolté. Les éclairs sillonnent la mer, lèchent le mât du petit voilier qui s'est abrité là en bas pour la nuit. Et eux, dans leur rafiot, sont-ils sur le qui-vive ou bien ballottés dans leur sommeil, tels des innocents ? Encore ?
Encore ?
Marie et Joseph foncent en voiture dans le brouillard à couper au couteau, en pleine nuit, en compagnie de la radio crachotante qui capte les nuages. Impression de rouler dans un tunnel d'eau ou de neige, sans que les roues touchent par terre. Tous les bruits sont atténués. Ils traversent une abstraction, avec comme seul repère la ligne blanche juste devant. De temps en temps, deux minuscules points rouges de feu arrière, d'abord devinés, attestent qu'ils ne sont pas seuls au monde. Marie et Joseph ont les chocottes, isolés dans l'espace-temps, avec les yeux grands ouverts pour tout gober, plein phare pour éclairer le rien, l'épaisseur de l'opacité. Ils ont hâte de retrouver les repères du monde, vite des champs de vision et des perspectives. Voilà.
Merci. Bon,
ça, c'est debout un peu poétique. Il y a des bouts bien plus vindicatifs. Marie se demande si elle dort, qu'est-ce qui lui passe par la tête. Les jeunes dans leur duvet chenille se transforment peu à peu en papillons multicolores. C'est vrai ça, c'est fatigant à force, puis il faut y penser, et puis on ne sait pas où, et des fois on oublie à emmener ses ordures après la fête. On arrive avec des fleurs et on repart avec les poubelles. On arrive avec des bières et on rentre avec les canettes vides. Comme les couilles vides, on n'a pas envie d'en faire un exposé, de se les traîner comme une punition. C'est plus direct d'en faire un explosé. On arrive avec les munitions et on laisse des cadavres, à la guerre comme à la guerre. On n'est pas des tapettes, on ne fait pas le ménage. On rote et on hurle, la techno nous chauffe le cœur. Vous n'allez pas nous emmerder avec des restes. De toute façon, on passe, on reste pas justement. Alors pour les restes, on reste pas, on se casse. On casse du verre, ça porte bonheur.
Il y a un côté, je ne sais pas comment dire, cruel avec le réel, dans ta manière d'écrire, je trouve.
Mais le réel est cruel. Non, enfin, je pense que le monde est à la fois très beau et super violent. Donc, ouais, rendre compte de ça.
En tout cas, je parle aussi de ta manière de décrire finalement le quotidien des gens, enfin, simplement la vie dans les moments peu glorieux qu'on peut avoir et dans ce qu'on a de moche aussi en nous, en fait.
Ben, ça fait partie de la vie, non ? Et peut-être que ça m'attire plus dans l'écriture que des jolies choses. Je sais pas, je me suis jamais posé la question.
Ça crée du relief.
Ouais, mais on est confronté à ça tout le temps, non ? Où on s'efforce de pas voir ce qui nous dérange. Ou de pas y faire, pas accrocher dessus en tout cas. Et l'écriture, ça accroche surtout.
Et Fabienne, du coup, pour terminer, tu m'expliquais que ta résidence au sein de Peuple et Culture, c'est terminé, parce que moi je t'ai présenté comme ça, mais je n'étais pas à jour malheureusement, mais tu es encore dans les parages, tu fais encore des ateliers d'écriture à Peuple et Culture. Je voulais simplement savoir, c'est quoi un peu tes projets pour la suite? Est-ce qu'il y a d'autres projets de livres qui sont sur le feu? À quoi on peut s'attendre?
Alors, tout de suite, non, mais il se trouve que... J'ai été contactée par un organisme qui s'appelle l'Observatoire de l'espace, qui dépend du CNES, et qui travaille avec des auteurs et avec des artistes. Et là, c'était pour un groupement d'écrivains autour d'un thème de réflexion qui était les non-humains dans l'espace. Et moi, je m'occupais plus particulièrement des non-humains machiniques, donc des machines. Et du coup, je me suis intéressée au spatial, que j'ignorais complètement, enfin, sauf comme tout le monde, avec des idées reçues ou quelques informations. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et du coup, je continue à m'y intéresser et à écrire un peu dessus. Et du coup, dans Pourquoi l'horizon, il y a deux petites pages qui ont raccroché sur ce thème-là aussi. Donc voilà, ça c'est un projet. Et puis, l'autre projet, entre autres avec les ateliers d'écriture, en fait, cette année, on s'est en but de faire de la création radiophonique, figure-toi.
Ah bah, ça tombe bien.
Ah oui, non, je trouve ça formidable. Et ouais, j'ai découvert la radio il n'y a pas longtemps, entre autres avec toi. Et je trouve que c'est un médium fabuleux.
Bah écoute, on a hâte d'écouter la suite, on a hâte d'écouter ça sur Radio Vassivière, j'espère. Et puis, merci en tout cas.
Merci à toi.